Maître Crépin Boulougoumba, bonjour.
Bonjour.
L'insécurité persistante dans le nord-ouest centrafricain avec des engins explosifs piégés, ne craignez-vous pas que cette crise a désormais un nouveau visage ?
C'est une escalade qui préoccupe tous les centrafricains. Évidemment, je ne peux qu'être préoccupé parce que on croyait qu'avec la reprise de certaines villes de notre pays, la situation allait s'améliorer, malheureusement. C'est bien la preuve qu'il faut savoir faire la paix quand on a mené la guerre. Je suis de ceux qui avaient dit très clairement qu'il fallait imposer la force légitime des armes pour amener la sécurité dans le pays profond. Eh bien, je suis encore de ceux qui pensent qu'après avoir fait ça, il faut parachever cette œuvre par un accord de paix avec les forces vives de la nation. Pour libérer le pays définitivement, la solution doit finalement être politique après avoir été militaire. Ce qui veut dire que ceux qui ont posé ces mines antipersonnelles doivent être recherchés et doivent être punis. Je fais remarquer que le seul corridor qui permet à l'économie nationale d'être approvisionnée, le corridor de Douala, a été perturbé. Ces gens, ces criminels connaissent la faiblesse de notre économie, la faiblesse de notre armée, la faiblesse de notre État, et vont jouer dessus. Alors ici, il faut faire la part des choses entre ceux qui sont des criminels sans foi ni loi et des mercenaires qui n'ont aucun intérêt, qui ne feront jamais la paix. Je l'ai toujours dit, et les Centrafricains. Ce qui, aujourd'hui, exprime le désir de revenir dans la République, si ce désir est sincère, pourquoi pas, il faut leur tendre la main, c'est-à-dire qu'on leur permette de déposer les armes et de revenir dans la République.
Vous voulez faire allusion au dialogue avec les groupes armés ?
Non, je ne parle pas de ce dialogue qui, finalement, occupe toutes les pensées pour toutes les bonnes raisons. Je vais au-delà du dialogue. Je pense que les Centrafricains doivent aspirer à la paix. Et pour pouvoir aspirer à la paix, il faut prendre des décisions difficiles. Le dialogue, ce n'est pas moi qui l'organise. Je suis un politique, je suis convié à ce dialogue. Je dirai à l'occasion ce que je pense, ma conception de la politique, ma conception de la résolution du problème sécuritaire de notre pays. C'est que le gouvernement doit prendre la juste mesure des choses. D'abord, avoir la force et continuer la réforme des FACA. Aucune armée du monde ne peut rester dans un autre pays éternellement. L'expérience de l'Afghanistan nous renseigne sur la fatalité de cette assertion. Après 20 ans, l'armée américaine a dû se retirer. On était en droit de penser que cette armée afghane, après 20 ans d'assistance, serait en mesure de faire face à la montée en puissance des talibans. Eh bien non. Donc ça doit nous renseigner sur la nécessité pour les Centrafricains de travailler à une bonne réorganisation, à une vraie montée en puissance, cette fois-ci, de notre armée nationale.
La MINUSCA suspend provisoirement les travaux de déminage dans les régions en justifiant cela par des empêchements. Qu'en dites-vous ?
Je ne sais pas ce qu'on appelle empêchement, donc je ne peux pas répondre à la place de la MINUSCA. Il me semble cependant urgent que le gouvernement prenne la tâche avec la MINUSCA afin de lever cette sorte d'hypothèque sur la nécessité de procéder au déminage des zones. Ces pauvres compatriotes ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire aller au champ, aller à la pêche et être heureux sur la terre de leurs ancêtres. Donc c'est un terme sibyllin quand on parle d'empêchement.
Monsieur, plusieurs commissions d'enquête sont mises en place après plusieurs accusations de crimes et exactions imputées aux forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. Croyez-vous à une issue favorable pour déterminer les responsabilités ?
Je pense que la volonté de justice ne doit pas être ponctuelle. Et j'ai toujours déploré, au-delà de la question de commissions d'enquête que je condamne et qui doivent être réprimées avec la dernière énergie, je crois, la valeur ultime de la vie humaine. Mais c'est surtout l'absence de volonté de la part du gouvernement de punir. Quand on parle d'insécurité ou quand on parle d'impunité, ce ne sont pas que des crimes de sang. Il y a, par exemple, des rapports qui ont été mis à la disposition de l'exécutif par la Autorité pour la bonne gouvernance qui n'ont pas connu de suite. En réalité, ce qui est en jeu, c'est la bonne justice. La bonne justice susceptible d'attirer les investissements directs étrangers. La bonne justice qui seule garante de la paix dans une nation. Même la Bible le dit, le Coran le dit aussi. Là où il y a injustice, il y a insécurité. Là où il y a la justice, eh bien, il y a la paix. Aussi simple que ça. Donc, je n'ai jamais vu un début de commencement de la volonté du gouvernement de châtier ce qui dilapide la maigre ressource de l'État. Au contraire, j'ai été témoin de scènes tout à fait surréalistes et qui m'ont affligé. Par exemple, nous sommes dans un pays où les magistrats baissent la tête devant les truands. Les truands sont devenus le modèle social à suivre. Je pense que c'est un revirement de ce qu'on appelle la nomenclature sociale. Et le jour où les truands vont commencer à baisser la tête devant les magistrats, devant les honnêtes citoyens, pour vous dire, le jour où les truands vont commencer à être envoyés en prison, ce serait un bon début pour le développement de ce pays. Il n'y a aucun développement possible là où il n'y a pas justice.
Oui, vous voulez aussi faire allusion à la grève des avocats ces derniers temps. Vous aussi, vous êtes avocat. Faites-vous foi à ce qui se passe en ce moment?
C'est un sentiment de ras-le-bol et de mépris vis-à-vis de ceux qui défendent la justice dans ce pays. Mais ça fait partie d'un plan beaucoup plus général, la mise au pas de toutes les entités. L'exécutif souhaite que toutes les institutions puissent s'agenouiller. Et ça a commencé comment? Un avocat a été jeté comme un criminel en geôle. Un avocat est quand même protégé dans sa profession parce qu'il défend quand même les droits des citoyens. Et il n'y a pas plus grande préoccupation dans une nation qui se veut civilisée, qui se dit civilisée, que la défense et la protection des droits. Je pense que trop c'est trop. Je suis tout à fait solidaire de mes confrères et nous n'allons pas nous arrêter là. Il faut arrêter de terroriser intellectuellement les avocats, de les mépriser et de les jeter en prison. Et nous n'allons pas nous laisser faire.
Monsieur, les États de Grand Lac viennent de valider une feuille de route pour la paix en Centrafrique en mettant l'accent sur la poursuite des pourparlers avec tous les groupes armés pour la renonciation de la violence. N'est-ce pas un air de déjà-vu?
Nous parlons des Grands Lacs parce que nous avons été incapables nous-mêmes de régler nos problèmes. Et puis, la sous-région a son mot à dire par rapport, encore une fois, au déficit de confiance entre les Centrafricains. Si nous avions des institutions fortes, si nous avions confiance entre nous, Centrafricains, nous n'en serions pas là. En réalité, ce qui préoccupe ici, moi, en tant que politique, c'est la recherche du développement et de l'entente entre tous les Centrafricains. Mais nous ne pouvons pas aller au progrès, par exemple, si nous ne nous entendons pas. Comme on dit, self-indulgent, c'est-à-dire qu'on est complaisant vis-à-vis de nous-mêmes, nous Centrafricains. Lorsqu'on inaugure une station-service, on pense qu'on va vers le progrès. Je rappelle qu'on ne peut pas prétendre au progrès si on a un budget aussi lilliputien que le nôtre, moins de 300 milliards de francs CFA, plus de la moitié est assurée par les dons et autres aides budgétaires. Voulons-nous le progrès de notre pays? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices nécessaires? Quand on a répondu à ça, l'autre question c'est de combien avons-nous besoin chaque année en termes de milliards de francs CFA pour arriver à un certain niveau de développement sur une certaine période avec une certaine gouvernance? Et la troisième question c'est comment trouver les ressources nécessaires pour atteindre ce niveau? C'est même pas une question d'opposition, de gouvernement ou de société civile. C'est une question de nécessité nationale.
Mais oui, face au climat sécuritaire incertain, la classe politique ne semble pas être unanime sur l'essentiel pour le retour à la normale. Vous, politique, aussi, vous avez votre part de responsabilité.
Mais naturellement, je ne crois pas à la responsabilité collective. En tant qu'avocat, je crois à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si en tant que politique, je pose un acte, il faut que je sois tenu pour responsable. Mais même la notion de responsabilité a disparu dans le schéma mental du Centrafricain. Aujourd'hui, personne n'a peur de faire quoi que ce soit. Vous voyez que tous les jours, il y a des gens qui, après avoir détourné les deniers publics, posent en parangon de vertu et narguent les citoyens ordinaires, honnêtes, qui se lèvent le matin pour aller travailler et qu'on n'a même plus peur de rien. Donc moi, personnellement, je constate comme vous l'absence de cohésion entre les Centrafricains. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas toujours été généreux au sens républicain. C'est-à-dire que nous n'avons pas toujours été disposés à consentir les sacrifices nécessaires. Tout le monde veut être roi, mais tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être directeur général. Ce que nous devons, en revanche, faire avancer comme idée, c'est le progrès. Si telle personne arrive au pouvoir et cette personne est porteuse des idées auxquelles nous croyons, faisons en sorte que cette personne puisse travailler. Mais c'est ça qui est absent de la gouvernance étatique depuis très longtemps. Donc travaillons pour faire un pays, un vrai. Ça, c'est mon ambition.
Maître Crépé Bolingumba, merci.
C'est moi qui vous remercie.